Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'écoute du magazine d'actualité du week-end de Radio Prague. Au menu de cette émission, Václav Richter consacre sa légendaire rubrique littéraire à une foire du livre. Mystère donc, vous en saurez plus dans quelques minutes, après avoir écouté l'entretien que le réalisateur suisse Eric Berkraut, de passage à Prague dans le cadre du festival Jedensfjet, a accordé à Anna Kubischta. Le festival du film sur les droits de l'homme, Jedensfjet, One World, s'est achevé à Prague le 13 mars, mais se poursuit encore en région. Parmi les invités cette année, le réalisateur suisse Eric Berkraut, que Radio Prague avait eu l'occasion de rencontrer en 2008 déjà, pour son film « Lettre à Anna ». À l'occasion de la 18e édition du festival, Eric Berkraut était membre du jury, mais présentait également son dernier film consacré à l'ancien PDG de Yokos, l'homme d'affaires russe Mikhail Khodorkovsky, emprisonné en 2004 pour des malversations financières. Certains ont considéré que son procès avait été avant tout un procès politique, alors que l'oligarque se présentait en rival du président Vladimir Poutine. Ce dernier finit par le gracier en 2013. Eric Berkraut s'est penché sur la personnalité fascinante et controversée de Mikhail Khodorkovsky. Il en a dit plus au micro d'Anna Kubischta.
Culture sans frontières.
C'est pas la première fois que vous êtes à Prague. Vous étiez déjà là plusieurs fois dans le cadre du festival One World. Vous avez reçu d'ailleurs pour votre film Lettre à Anna le prix Václav Havel. Vous avez reçu également le prix Rudolf Verba pour votre film sur la Tchétchénie. Vous commencez à être un habitué, non, du festival et de Prague.
Bon, ça fait une petite pause que j'ai pris, mais j'adore cet endroit et je trouve que c'est un festival extrêmement important. Et maintenant, je suis là, je présente aussi un film, je suis surtout là parce que je suis membre du jury.
Justement, en tant que membre du jury, vous vous retrouvez de l'autre côté, enfin, vous vous retrouvez à juger des films. Quels sont un peu les critères d'appréciation que vous fixez ?
C'est tellement difficile de faire un film, de terminer un film, et c'est tellement plus simple de critiquer un film et de faire de très justes remarques critiques sur un film que de faire un film soi-même. Ça, je suis totalement conscient. Mais quand même, ça m'a évoqué des réactions assez émotionnelles de voir des films. Parfois, j'ai pas approuvé du tout. Et parfois, oui. Pour moi, c'est une rare opportunité de vraiment pouvoir voir des films. Ça m'a beaucoup manqué les dernières années parce que j'ai fait beaucoup de films. Je suis engagé dans ma famille. Et puis vraiment de prendre du temps et de regarder des films. Et ça me fait très plaisir.
De vous sortir un petit peu du quotidien du réalisateur, finalement.
De la réalisation. J'ai pas eu assez de temps de voir ce que font les collègues, pas assez de temps d'aller au théâtre, de voir des pièces et tout ça. Donc j'essaye de me nourrir un peu de ce que je vois.
Alors, il y a donc votre film sur Anna Politkovskaya, Coca, la colombe de Tchétchénie. Maintenant, vous avez fait donc un film qui s'appelle Citizen Khodorkovsky. C'est de nouveau un film documentaire sur la Russie. C'est un peu votre sujet de prédilection, la Russie. On a l'impression que c'est quelque chose qui revient comme une espèce de leitmotiv. Pourquoi ?
Non, ça s'est créé par hasard, presque. C'est vrai que j'en ai fait trois. Khodorkovsky était beaucoup plus compliqué, plus difficile. Parce que c'est un personnage beaucoup plus ambigu que les autres. Donc c'était un travail très 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 difficile. Mais j'ai fait d'autres films, de tout autre film, sur un poète suisse, Peter Bixel, sur son voyage à Paris, qui s'est arrêté à la gare de l'Est, dans une chambre d'hôtel. Et il s'appelle Chambre 202, ce film, parce que c'est un poète qui voulait pas voir Paris, réellement, parce qu'il avait tellement d'images de Paris à travers la littérature, il ne voulait pas détruire son image. Donc je l'ai convaincu de faire un voyage jusqu'à la gare de l'Est.
Et pas plus loin.
Pas plus loin, non, il est sorti une seule fois dans le jardin de Luxembourg à cause du poème de Rilke sur le manège là. Donc j'ai fait de tout autres films aussi qui sont peut-être plus poétiques. Je trouve la politique sans une petite dose de poésie, ça vaut pas le coup. Donc, mais c'est vrai, disons, ce qui se passe maintenant en Europe, c'est vraiment très grave. Et ça nous démontre une fois de plus que défendre les droits humains, que ça doit être une priorité, c'est scandaleux. Comme nos valeurs de solidarité et même vraiment les acquis des droits humains sont mis en cause partout. Donc je trouve que c'est une grave épreuve pour notre civilisation que nous vivons à ce moment-là.
Justement, vous disiez que le personnage de Khodorkovsky est un personnage ambigu. Comment est-ce que vous avez travaillé alors dessus pour justement essayer d'avoir un regard le plus juste possible, hein?
Bah c'est un film très personnel qui démarre avec des lettres que nous avons échangées. Donc ça, sur la forme, c'est intéressant parce que les premières 35 ou 40 minutes du film, ça se passe à travers des lettres et après ça devient réel. Le film a totalement changé du fait qu'il a été libéré. Il a seulement pu être libéré dans une petite fenêtre de temps après ce qui s'est passé en Ukraine. Jamais Poutine l'aurait libéré. Donc j'essaie de comprendre ce que la prison, c'était l'expérience de la prison pour lui et comment il est sorti, quels sont ses projets. Et je pense qu'il a beaucoup de projets. Et c'est puisque ce qui se passe en Russie, des choses vont se passer dans les années à venir. Est-ce que lui sera quelqu'un d'important ou pas?
Est-ce qu'il aura un rôle, oui, c'est ça. Oui.
C'est pas clair du tout, parce que c'est un homme du passé, tout d'abord, qui essaye de devenir un homme du futur. Mais c'est pas clair du tout. C'était très difficile parce que c'est un monsieur très contrôlé, déjà à travers sa personnalité.
Ça se voit même pendant les interviews, en fait, hein, qu'on a l'impression toujours comme s'il n'avait pas un masque, mais d'une certaine manière, une espèce de façade où il ne laisse pas transpercer peut-être les émotions qu'il a dû évidemment subir quand il était derrière les barreaux.
Est-ce que c'est dû à ses 10 ans de prison, dont il veut toujours donner l'impression qu'il n'a pas du tout souffert? Ben, ça me semble impossible. Mais en partie, c'est sa personnalité, je pense aussi. En partie aussi, c'est une stratégie, parce que je suis sûr qu'il veut retourner, qu'il aimerait bien devenir quelqu'un d'important en Russie. Il est convaincu d'être un grand leader. C'est ça aussi un problème que j'ai un peu eu, parce que moi, je suis juste un modeste réalisateur. Je me sens plus proche des gens aussi, qui se questionnent beaucoup, que des gens qui sont tellement convaincus d'être des personnages uniques dans l'histoire, comme c'est son cas. Mais il est vraiment d'une extrême intelligence, c'est hors question, et son parcours est quand même impressionnant, même s'il est très ambigu, bien sûr, les années 90, c'est dommage qu'il n'en parle pas plus, parce que je ne crois pas que c'était un aussi sale garçon qu'on peut croire. Bien sûr, il a profité de tout ce qu'il savait, de tous ses contacts, c'est hors question. Mais je crois qu'il a toujours eu, peut-être tout au début, il était ivre de l'argent et du pouvoir, mais très vite, c'est quelqu'un qui voulait faire et créer quelque chose de raisonnable et de bien pour son pays. Ça, j'y crois vraiment.
Vous avez l'impression d'avoir un peu percé le mystère après l'avoir comme ça côtoyé à la fois de manière épistolaire puis de manière personnelle?
Je ne sais même pas si c'est un mystère. C'est quelqu'un de très réservé, de très contrôlé, de très rationnel dans son approche, et pas d'émotionnel. De faire un tel personnage, le personnage principal d'un film, c'est très courageux. Et c'est le courage que j'ai eu. On va voir dans quelques années seulement si. Je suis très curieux si ce qu'on va penser dans ce film dans quelques années. Parce que maintenant, Khodorkovsky semble être le loser du duel, mais le système de M. Poutine, je veux dire, je pense pas que ça va tomber demain ou après-demain, mais c'est beaucoup d'éléments d'un régime dans les dernières années, beaucoup d'éléments qui nous font penser ça, beaucoup d'éléments qui nous font penser que M. Poutine se sent pas sûr du tout. On pourrait dire avec 90% d'opinion publique qui pourrait être un peu plus décontractée, mais apparemment il a extrêmement peur de tout ce qui se passe dans la rue. Donc à voir, à suivre.
Quelles étaient vos conditions de tournage en Russie?
On a bien sûr tourné clandestinement, on était en Carélie où M. Khodorkovsky était emprisonné, on a fait ses travelling de l'extérieur de la prison. On a bien profité dans les moments où on savait que les gardes allaient changer de service et pas tellement observer la rue. Ça, c'était un peu... C'est défendu de filmer, bien sûr, ce genre d'endroit, mais c'est un petit peu thrilling de faire ça. Je ne sais pas que j'ai cherché le risque, mais ça, Il fallait les images, parce que déjà, si vous ne pouvez pas rentrer, pas interviewer la personne, les images de l'extérieur, il fallait les avoir.
Comment est-ce que Khodorkovsky a réagi en voyant le film? J'imagine qu'il l'a vu.
Oui, longtemps il ne voulait pas le voir parce que déjà il dit qu'il ne regarde aucun film et lit aucun livre qui est fait sur lui. Est-ce que c'est vrai ou c'est une manière de parler? Je ne sais pas. Après, il y a quand même sa maman qui est décédée pendant le tournage, qui est un personnage très 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 important dans le film. Et au début, il me dit, je peux excuser, moi, j'étais dans mon atelier à Zurich, excusez, mais je n'arrive pas à regarder le film à cause de ma mère. Entre-temps, apparemment, elle a vu et m'a écrit que effectivement c'était lui. C'est plus ou moins ce qu'il m'a écrit, qu'il se reconnaît très bien là-dedans. Mm-hmm.
On a un peu l'impression, enfin c'est ce qui ressort, et peut-être même à un moment donné lui-même, me semble-t-il, plus ou moins touche du doigt un petit peu que finalement les deux personnalités de Khodorkovsky et Poutine sont presque complémentaires, qu'ils ont besoin l'un de l'autre, un peu comme un négatif et un positif. C'est un peu ce que vous avez eu là, ce dont vous avez eu l'impression.
Je pense qu'il y a certains parallèles entre M. Poutine et Khodorkovsky. Tous les deux, je veux bien croire qu'ils aiment leur pays. Même dans le cas de M. Poutine, je veux bien lui accorder ça.
À leur façon, oui.
À leur façon, mais à une façon très, 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 très différente. Et tous les deux sont convaincus d'être des grands leaders qui s'inscrivent dans l'histoire russe. Et là, il y a un parallèle. Après, je crois que l'idée que Khodorkovsky se fait du pays est totalement différente. Là, je lui fais vraiment confiance. Bien sûr, c'est un homme qui aime le pouvoir. Il faut toujours se méfier des gens qui aiment trop le pouvoir, donc aussi de lui. Mais je veux bien croire qu'il croit qu'une société avec une justice indépendante, que c'est utile. C'est quelqu'un qui pense à ce qui est utile pour un pays. Ce n'est pas un homme qui a des grandes idées. Ce n'est pas un idéaliste.
C'est pragmatique.
C'est un pragmatique, oui. Et donc, une justice indépendante. Si vous voulez combattre la corruption, si vous n'avez pas une justice indépendante, vous n'allez pas y arriver. Donc, je crois vraiment que Khodorkovsky croit dans un modèle de démocratie, au modèle que nous vivons, nous, en France, en Allemagne, en Suisse. Donc, ça, je lui fais bien confiance. Donc, qui se diffère énormément, là.
Sans transition, on passe à la légendaire rubrique littéraire de Václav Richter. Aujourd'hui, il vous invite à participer à une foire du livre et à un petit festival littéraire dans un café de Prague.
Rencontre littéraire. Sans le petit éditeur, le marché du livre serait sans doute beaucoup moins varié et moins intéressant. Ce sont eux qui élargissent de façon considérable l'éventail des sujets et proposent souvent aux lecteurs des thèmes inattendus et passionnants. 12 petits éditeurs tchèques se sont réunis pour présenter du 14 au 18 mars dernier leur production au café littéraire de la rue Řetězová à Prague. C'était la première édition de la foire du livre de la rue Řetězová, Řetězový knižní trh. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un projet tout à fait isolé. Depuis quelques années, les petits éditeurs tchèques se mobilisent et organisent annuellement des foires, entre autres sur les quais de la Vltava à Prague, dans la ville de Tábor et ailleurs. Souvent, il s'agit de maisons d'édition d'un seul homme qui ne publie que quelques titres par an et pour lesquels l'édition est une affaire de cœur. L'éditeur et journaliste Zdenko Pavelka, qui est un des organisateurs de la foire de la rue Řetězová, explique les raisons pour lesquelles les 12 petits éditeurs ont décidé de présenter leur production dans un café de Prague.
Ta řetězová literární kavárna funguje zhruba 11-12 let.
Le café littéraire de la rue Jetězová existe à peu près depuis 11 ou 12 ans. Et pendant cette période, il est devenu un établissement où beaucoup de gens, de lettres, écrivains et lecteurs se rencontrent. Ceux qui s'intéressent à la littérature savent que ce café existe. Les gens se sont habitués à le fréquenter, on y organise des présentations de nouveaux livres, etc. Alors, nous nous sommes dit qu'on pourrait y organiser au printemps une manifestation de ce genre, chose dite, chose faite.
Parmi les 12 maisons d'édition qui se sont associées pour organiser la foire, il y a Analogon, établissement autour duquel gravitent les écrivains et les artistes d'orientation surréaliste. La maison publie notamment la revue Analogon, mais aussi un certain nombre de livres. La maison d'édition Dauphin de l'éditeur Daniel Podradsky, qui s'est également présenté au café de la rue Jetiezova, est un établissement qui prête une attention particulière à la littérature française. C'est Daniel Podradsky qui a publié, entre autres, la biographie de Marcel Proust par Jean-Yves Tadier, ouvrage monumental en 2 tomes dont nous avons parlé dans cette rubrique. Quant aux éditions Pulchra, un autre établissement représenté à la foire, elle édite beaucoup d'essais littéraires, mais aussi de la poésie, des nouvelles, etc. Récemment, Pulcha a publié « Études et articles sur la littérature française » de Jiří Konoupek, un des meilleurs connaisseurs tchèques de lettres françaises du XXe siècle. Zdenko Pavelka constate que les 12 maisons représentées à la foire ont quelque chose en commun.
Všech těch 12 nakladatelů nějakým způsobem je s tou
literární. Les 12 éditeurs sont liés d'une certaine façon avec le café de Jetiezova. Ils y présentent leurs livres ou publient les textes des auteurs qui le fréquentent. Bien sûr, nous avons été limités par l'espace. Nous aimerions y présenter beaucoup plus de maisons d'édition, mais nous nous sommes dit que le maximum serait 10 ou 12 éditeurs que je connais et qui ont exposé leur production déjà dans d'autres foires de ce genre, comme à Prague, à Tabor et ailleurs. Nous avons donc opté pour une douzaine.
L'objectif des organisateurs de la foire était d'attirer l'attention du public sur ces nombreux petits éditeurs qui coexistent sur la scène littéraire tchèque sans rivaliser vraiment, sans s'écarter l'un de l'autre, sans se cloîtrer dans leurs petits univers. Les auteurs des livres exposés se situent souvent à la lisière de divers genres, collaborent parfois avec plusieurs éditeurs et pas seulement avec les 12 maisons qui se sont associées pour organiser la foire. Zdenko Pavelka souligne l'importance des petits éditeurs sur le marché du livre tchèque.
Český trh je docela specifický tím, že takzvaní malí nakladatelé.
Le marché du livre tchèque est assez spécifique car les petits éditeurs représentent près de 3/4 de la production en ce qui concerne le nombre de titres, mais pas le nombre d'exemplaires évidemment. Les grandes maisons publient les livres à gros tirages. Cependant, ce sont les petites maisons qui créent la communauté littéraire. En France ou en Grande-Bretagne, c'est tout à fait différent. Jusqu'à 75% des titres dans ces pays sont édités par de grandes maisons. Je dis les soi-disant petits éditeurs tchèques parce que ensemble, ils créent une immense communauté littéraire et c'est sur eux que repose la vie littéraire, la vie naturelle de la littérature.
La foire de la rue Jetiezova a été aussi un petit festival littéraire. Tous les soirs, du 14 au 18 mars, des rencontres étaient proposées au public. La première soirée a été consacrée au livre « La kermesse théâtrale » d'Ivadel Nipout, évoquant les fêtes en plein air organisées depuis 1985 sur l'île Strzelecki à Prague et qui attiraient chaque année toute une pléiade de personnalités très originales de l'underground et de la périphérie du théâtre, artistes qui en général restaient insensible à l'attrait des théâtres officiels subventionnés et uniformisés par l'État. La deuxième soirée a été réservée à la rencontre de 5 écrivains réunis autour du thème « À quoi sert la mémoire ?» Zdenko Pavelka donne plus de détails.
Mě osobně paměť zajímá jako pochopení dějin, protože mám pocit, že kdo.
Personnellement, je m'intéresse à la mémoire en tant que compréhension de l'histoire, parce que j'ai l'impression que celui qui ne connaît pas l'histoire ne fait pas les mêmes erreurs que nos ancêtres, mais qu'il en fait beaucoup plus. C'est pourquoi nous avons choisi le thème de la mémoire et avons invité notamment les auteurs liés à la maison d'édition pour Khala mais aussi l'écrivain František Drillet, qui vient de publier un livre aux éditions d'e-book. Parmi les invités, il y a aussi Josef Krotvor, qui est pour moi un des plus grands essayistes tchèques, l'écrivain, poète et traducteur Michal Novotny, Jiří Padevět, qui a obtenu pour son livre Le Guide de Prague sous le protectorat allemand, le prix Magnesia Litera, et le journaliste Viktor Schleichert, qui s'intéresse au passé, au contexte historique des événements, mais aussi à l'actualité et à ce que nous pouvons en tirer.
La troisième soirée a été réservée aux livres pour enfants et à leurs auteurs, et la quatrième et dernière rencontre intitulée « D'autres continents »,« Jiné continenty », a eu pour thème la réédition du livre « O kaktech a jejich narkotických účincích »,« Les cactus et leurs effets narcotiques », paru aux éditions Titanic. Son auteur Alberto Wojciech Fritsch était un célèbre voyageur, écrivain, botaniste et ethnographe. Passionné par les Indiens d'Amérique, il a passé une grande partie de sa vie parmi eux et a partagé leur vie en effectuant diverses recherches. En 1923, il s'est rendu au Mexique pour étudier les effets curatifs du cactus peyotl, dont les propriétés psychotropes et hallucinogènes étaient utilisées par certaines tribus indiennes à des fins rituelles. Alberto Wojciech Fritsch a rassemblé les résultats de ses recherches dans un livre paru en première édition en 1924 et qui, aujourd'hui encore, n'a rien perdu de son intérêt. Conforté par le succès de la première foire du livre de la rue Jetiezova, Zdenko Pavelka réfléchit donc maintenant à l'avenir de cette rencontre de petits éditeurs avec le public.
Nous avons organisé cette petite foire avec Zdeněk Cibulka comme un essai. Son retentissement est encourageant et nous aimerions continuer l'année prochaine. Mais l'espace du café de la rue Jetiezova est limité. Tasser une grande librairie, bien que composée de livres de petits éditeurs dans un café, est une véritable aventure.
Voilà, c'est avec la rubrique littéraire de Václav Richter que s'achève aujourd'hui notre émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci d'être vous-même, merci de m'avoir accordé la permission de modérer cette émission. C'était Pierre Ménian au micro. Vous pouvez retrouver tous nos articles sur notre site internet au www.radio.cz/fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou bien sur Twitter. À très bientôt. Ahoy. Thank you.